Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau flash éclair du jour. À la une de la semaine du 5 avril, armement, industrie de défense, une nouvelle prise pour Naval Group, défense, test d'un missile hypersonique en Corée du Nord, et le focus de la semaine sera consacré à la défaite d'Erdogan aux élections municipales turques. On débute avec de l'armement. Après les Pays-Bas, Naval Group obtient un nouveau contrat avec la commande de deux sous-marins Scorpène Evolved par l'Indonésie. C'est en effet ce qu'a annoncé le constructeur d'armement dans son communiqué publié ce mardi. Les autorités indonésiennes ont donc choisi Naval Group et PT PAL pour leur programme de sous-marins. Le montant n'a pas été précisé, mais il avoisinerait 2 milliards de dollars selon certaines estimations. Ainsi, deux sous-marins Scorpène Evolved seront construits par PT PAL avec un transfert de technologie opéré par Naval Group. En termes de dimension, les submersibles pourront aller jusqu'à 72 mètres de longueur pour un poids total de 2000 tonnes par sous-marin. Mais petite spécificité, ce modèle se dote de batteries lithium-ion. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, pas mal de choses. Déjà, une autonomie supérieure à 78 jours, mais aussi un rayon d'action de 8000 nautiques, soit 15 km environ. Qui plus est, les performances ne s'arrêtent pas là. Les Scorpène Evolved iront jusqu'à 20 nœuds à plus de 300 mètres de profondeur et seront aussi équipés de 6 tubes de lancement, le tout pour une disponibilité en mer supérieure à 240 jours par an, ce qui est assez important. D'ailleurs, chez Naval Group, on se félicite, et a raison. Les submersibles vont renforcer la souveraineté maritime du pays, mais aussi renforcer et moderniser la flotte indonésienne. C'était en effet la priorité affichée par la marine indonésienne, avec environ 17 000 îles, dont certaines convoitées par la Chine. L'Indonésie est ainsi l'archipel le plus important au monde. D'ailleurs, ce n'est pas la seule bonne nouvelle de la semaine concernant l'industrie d'armement française. Côté terrien, la France va livrer des blindés et d'autres missiles à l'Ukraine. Les annonces interviennent dans le cadre d'un nouveau paquet d'aide annoncé dimanche dernier. Le gouvernement a donc décidé de mettre la pression sur les industriels français de l'armement. Au programme, comme on l'a dit, des centaines de blindés VAB anciens, mais encore fonctionnels. Il y a aussi des missiles Aster 30, le tout pour aider l'Ukraine à tenir sa grande ligne de front. Alors les livraisons sont prévues pour 2024 et début 2025 selon le ministre des Armées. À noter que donc ces livraisons n'impacteront pas davantage l'armée française. En effet, les anciens modèles sont actuellement en train d'être remplacés par des blindés de nouvelle génération, les blindés Griffon. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en France qu'il y a du mouvement dans l'Union européenne aussi, et de plus en plus même. En effet, la Bulgarie et la Roumanie intègrent partiellement l'espace Schengen. De 27, on passe désormais à 29. Alors attention, les deux États ont rejoint la zone de libre circulation européenne. Pour l'instant, elle concerne uniquement les aéroports et les ports maritimes. Pas de frontières terrestres pour l'instant. Néanmoins, après 13 ans d'attente, c'est une étape à forte valeur symbolique. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va même jusqu'à évoquer un moment historique pour l'espace Schengen. De leur côté, les pays arrivants, la Bulgarie et la Roumanie, ont salué cette intégration. Il y a raison, on peut imaginer. Hausse du tourisme et du nombre d'investisseurs, amélioration de la prospérité des pays, les avantages sont multiples. Pour autant, cette décision de ne pas inclure les frontières terrestres a provoqué une colère, celle des transports routiers bulgares. En effet, plus de 97% des marchandises de la Bulgarie passent par voie terrestre. Après l'Europe, on passe à l'Asie. La Corée du Nord dit avoir testé un missile hypersonique de moyenne à longue portée. Alors qu'est-ce que ça change concrètement pour celles et ceux qui suivent l'actualité internationale de loin ? Ça sonne comme un déjà-vu, mais il s'agit d'un missile hypersonique, c'est-à-dire qui se déplace à une vitesse d'au moins Mach 5, soit 6000 km par heure. Une fois finalisés, ces derniers peuvent adopter une trajectoire aléatoire en plein vol, ce qui les rend plus difficiles à intercepter. Et qui plus est, les missiles hypersoniques peuvent emporter tout type d'ogives conventionnelles comme nucléaires, le tout en bénéficiant d'un déploiement plus rapide et réduit. Le test s'est donc tenu ce mardi en présence de Kim Jong-un. Le missile a parcouru environ 600 km avant de s'abîmer dans les eaux situées entre la Corée du Sud et le Japon. L'intérêt derrière pour Pyongyang, c'est d'arriver à neutraliser les systèmes de défense antimissiles de la Corée du Sud et des États-Unis. Autre intérêt pour Pyongyang, celui de menacer davantage les bases militaires régionales américaines. Et à terme, ce test pourrait avoir de nombreux impacts. Déjà, il va compromettre un peu plus la sécurité régionale, mais surtout, il viendra compléter l'arsenal de missiles de la Corée du Nord avec désormais des ogives nucléaires de différentes portées, différents combustibles, dont ceux, comme on l'a dit, à ogives contrôlées et à ogives nucléaires. Avant de passer au focus de la semaine, on souffle des bougies, celles de l'OTAN précisément. L'Alliance Atlantique a eu 75 ans hier, jeudi 4 avril. Créée en 1949 par 12 pays d'Europe et les États-Unis, l'OTAN visait à l'époque à contrer l'URSS. Et c'est tout naturellement qu'à la chute du mur de Berlin, ses activités se sont diversifiées. Elle est passée tour à tour de la défense collective à la sécurité coopérative. Dorénavant, c'est plutôt de la gestion de crise. Et c'est ce qui a amené, dans les années 2000, à des opérations militaires dans les Balkans, en Afghanistan, en Irak ou encore en Libye. L'OTAN était de plus en plus critiquée ces dernières années, notamment en raison des coûts. Mais elle est revenue sur le devant de la scène avec le conflit russo-ukrainien. Actuellement, 8 bataillons sont déployés dans les pays limitrophes ou proches de la Russie, dont un sous l'égide de la France. Tout au long de l'année, des exercices sont réalisés actuellement avec des scénarios réalistes et exigeants. 75 ans, ça commence à faire et ça n'empêche pas de se projeter dans le futur. L'enjeu principal, selon le général Jérôme Guasc, qui est un peu le représentant permanent de la France au comité militaire de l'OTAN et de l'Union européenne, selon ce général, au vu du contexte actuel, la priorité reste de maintenir l'unité et la solidarité entre les 32 pays. On termine comme d'habitude par le focus de la semaine et cette fois-ci on va parler politique, on va parler élections municipales et on va parler de la Turquie. Le parti AKP, le parti du président Erdogan, a perdu contre le CHP, le parti républicain du peuple qui est aussi le principal parti d'opposition. Ces élections ont été pour lui l'occasion d'asseoir son assise sur les principales villes, mais aussi de consolider le statut de son leader, Ekrem İmamoğlu. Il a eu donc 38% des voix avec 35 grandes villes, là où le parti d'Erdogan a eu 37% des voix, soit une perte de près de 7 points par rapport à 2019. Autre précision avant d'embrayer sur l'analyse, le scrutin municipal turc est assez différent de celui qu'on a en France. C'est-à-dire que là où on vote pour un maire par élection, les électeurs turcs choisissent à la fois leur maire de métropole, les édiles de district, les conseils municipaux, mais aussi les moutards qui sont un peu des chefs de village. Donc ça fait 4 élections en un scrutin, si on peut dire. Alors maintenant, on va passer un peu à l'analyse. Pourquoi ces élections sont intéressantes? Déjà, pour commencer, elles montrent une cartographie plus nuancée de la vie politique turque. Et oui, il y a certes 2 camps principaux, mais on peut en rajouter facilement 2 autres. Tout d'abord le DEM, un parti souvent qualifié de gauche pro-kurde, et le IYI, un parti d'opposition nationaliste avec des discours anti-migrants. Pour compléter le tableau, on rappelle un peu le CHP, c'est le principal parti d'opposition, et il est à tendance kémaliste, donc laïque. Et enfin, donc, le parti présidentiel, qui lui est plutôt à tendance conservatrice. Donc ça fait un paysage politique quand même assez riche et intéressant. L'autre point intéressant concerne la défaite du camp présidentiel. Elle est lourde, et d'autant plus lorsqu'on constate l'engagement du parti présidentiel pour ce scrutin. Les ministres ont été mobilisés. Erdogan est allé plusieurs fois sur les plateaux télé pour manifester son soutien à ses candidats. Et qui plus est, dans un contexte où le président turc a annoncé vouloir se retirer en 2028. Ainsi, ces élections risquent d'annoncer une potentielle dernière phase de l'erdoganisme qui a alterné depuis 2002 entre ouverture et répression. Et dernier point intéressant quand même qui concerne la jeunesse, ces élections municipales confirment une tendance de fond, celle de la laïcisation croissante du vote des nouvelles générations qui semblent s'éloigner des valeurs du conservatisme islamique. Selon les chiffres de la revue Grand Continent, après 2 décennies de la gouvernance AKP, le parti d'Erdogan, le taux de pratique voire d'adhésion à l'islam n'a jamais été aussi faible. Ainsi, après les 3 constats, une question demeure. Flash Éclair parle de géopolitique. Quel impact ces élections municipales auront-elles à l'international? Bien peu, en réalité. La politique étrangère de la Turquie semble faire consensus au sein du paysage politique. Il y a peut-être le YRP qui peut influer sur les positions turques envers Israël, mais c'est globalement tout. La diplomatie turque a renoué ces dernières années avec une forme de pragmatisme dans les relations, notamment vis-à-vis de l'Occident ou encore du monde arabe. Et c'est pas pour autant que les opérations militaires turques vont s'arrêter. En effet, lors de son discours dimanche soir, le président turc Erdogan a également annoncé 2 nouvelles opérations menée contre le PKK en Turquie. C'est la fin de ce focus. Avant de passer à l'outro, je vous recommande impérativement la lecture de l'article réalisé par la revue Le Grand Continent. Ils ont fait un super travail de sensibilisation et de vulgarisation sur ces élections municipales. Je vais mettre le lien vers l'article dans le post LinkedIn du podcast. C'est la fin de ce podcast. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner. Actuellement, les jeunes IHEDN, c'est un podcast par semaine minimum. plus tout un tas de contenus présents sur le site de l'association. Dans ce podcast, on a aussi parlé de la DGA. Sachez que si ça vous intéresse, on a réalisé une interview du délégué général pour l'armement. N'hésitez pas à le consulter, c'est l'épisode 51. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau podcast des jeunes IHEDN.